BFM Business, tout pour investir.
Il est 11h, soyez bienvenus dans Tout pour investir comme tous les jours, à la télé, à la radio, sur internet, nos replays, nos podcasts bien sûr sur bfmbusiness.fr. Une heure pendant laquelle on va parler de vos placements bien sûr, une heure au cours de laquelle on va rester connecté à l'actualité, notre actualité, parce que vous savez que depuis ce matin BFM Business vous fait vivre sur les temps forts du salon Global Industrie depuis Villepinte près de Paris. On va y retourner dans quelques minutes parce que Laure Clausier nous attend d'ici un instant avec le ministre de l'économie et des finances Roland Lescure, dont on attend bien sûr le sentiment, les remontées de terrain évidemment sur l'état d'esprit, l'état de santé des industriels après quasiment un mois de conflit, parce qu'on y est bien sûr. Les marchés sont prudents, justement après un mois de conflit. Regardez le CAC 40, là, qui a gravité autour de l'équilibre depuis ce matin et qui prend en ce moment 0,39%, 7731 points pour l'indice parisien. Bah justement, je vous redonne les grands titres de ces dernières heures en lien avec cette actualité au Moyen-Orient. D'abord, Donald Trump qui continue de souffler le chaud et le froid. Il a encore menacé il y a quelques heures dans une interview au FT de s'emparer de l'île de Karg, d'où l'Iran exporte, vous savez, 90% de son pétrole. Mais dans le même temps, le maire Donald Trump considère qu'il y a bien eu un changement de régime et qu'il discute avec des personnes différentes avec lesquelles il entrevoit, je cite toujours, un accord. Les hostilités en attendant se sont poursuivies depuis ce matin entre Israël, l'Iran et le Liban. On a par ailleurs appris tout à l'heure qu'un casque bleu de la Finul d'origine indonésienne avait été tué hier soir lors d'échanges de tirs dans le sud du Liban, qui est bien sûr le fief du Hezbollah. Et puis, en France, le ministre des Transports qui a déclaré tout à l'heure que les aides débloquées en urgence sur avril pour les agriculteurs, les pêcheurs et les transporteurs routiers, eh bien ces aides pourraient être reconduites en mai voire en juin si la situation perdure. Voilà ce qu'il a dit ce matin. L'enveloppe en question, elle s'élève à 70 millions d'euros. Elle a été débloquée en urgence en fin de semaine. Voilà pour les grands titres ce matin. Je vous dis un mot quand même des sujets patrimoine qu'on abordera surtout en deuxième partie d'émission, évidemment à partir de 11h30. Vous savez qu'on parle beaucoup d'ETF. On va en reparler parce qu'apparemment on est à la veille d'une nouvelle arrivée d'investisseurs dans les ETF en France. Ça marche très très bien. Sinon, c'est le sujet du moment, les fonds de dette privée dits Evergreen. Il y a des blocages pour l'instant sur certains fonds américains. Est-ce qu'il faut se poser des questions ou bien est-ce qu'on s'inquiète pour rien? On posera la question et puis on parlera de la location d'Airbnb dans les copropriétés. Il y a du nouveau. On pourrait même aller vers de l'interdiction purement et simplement dans certains cas. Voilà le programme. Vous nous envoyez vos questions bien sûr sur internet, direct à bfmbusiness.fr ou par SMS 73216. Vous tapez le mot-clé business suivi de votre message. Voilà pour les sommaires. Voilà pour le sommaire. Voici le tableau de bord tout de suite.
Tout pour investir, le tableau de bord.
Le tableau de bord, ça reste très très compliqué sur les marchés, surtout en Asie, on verra ça dans un instant, mais voyez, en Europe, on est un petit peu sur le fil du rasoir globalement sur les grandes places européennes. L'Eurostoxx 50 qui prend 0,4%, Paris plus 0,37%, mais on a ouvert dans le vert dans le rouge ce matin sur le marché parisien. Puis voyez, le DAX, lui aussi un petit peu hésitant, 22 348, plus 0,2%. C'est encore mitigé sur les indices parce que c'est mitigé fondamentalement sur le pétrole qui est aux alentours des 116 $ encore, voyez. Même si on est redescendu, on est plutôt aux alentours des 116 $ en ce moment sur le baril de Brent. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin finalement des records qu'on a été allé taper récemment aux alentours du 9 mars. Vous savez, on avait approché quasiment les 118-119 € sur les marchés asiatiques. On va regarder les valeurs qui se distinguent à la hausse ou à la baisse sur le marché parisien. Vous voyez, du côté des hausses, Thalès qui gagne 2,3%, 243,40 €. Engie plus 2%, 27,37 €. On revient un petit peu sur les valeurs défensives. Vous voyez, Danone aussi est plébiscité. Total Énergie qui touche quasiment un record. On en parlera dans un petit quart d'heure de Total. Et du côté des baisses, bah là aussi malheureusement, on prend des bénéfices sur quelques grosses pondérations de la cote comme Sanofi, moins 1,3%. Puis vous voyez, recul dans les alentours d'1% sur la Société Générale. Et sur Accor, les bancaires notamment qui souffrent aujourd'hui. Un petit mot de l'obligataire parce que là aussi, il se passe encore des choses. Mais notamment le 10 ans français qui est remonté à 3,83%. 10h03, on va retrouver, je crois, Laure Clausier qui est en direct. Voilà, je la vois dans l'écran à côté du ministre de l'économie et des finances, Roland Lescure, qui est en train de s'équiper. Vous savez que BFM Business vous fait vivre depuis ce matin les temps forts de ce salon Global Industrie du côté de Villepinte. Il tombe très bien après quasiment un mois de conflit, ce salon. Et ça va être l'occasion d'entendre le ministre de l'économie et des finances dans un instant sur Bah, les remontées de terrain, son sentiment, le sentiment des chefs d'entreprise qui sont confrontés évidemment à la montée en puissance des prix de l'énergie, gaz, pétrole, plus de nombreuses matières premières. Laure Closier qui va, je crois, prendre la parole avec le ministre de l'Économie et des Finances. Laure, je ne sais pas si vous nous entendez, mais on vous écoute.
On est prêt, absolument. Merci beaucoup, Guillaume. Je suis effectivement avec Roland Lescure, ministre de l'Économie et des Finances. Bonjour, merci d'être avec nous depuis Global Industries, salon à Villepinte qui dure 5 jours où tous les industriels sont là, évidemment, pour parler de souveraineté, pour parler d'investissement dans l'intelligence artificielle, dans la décarbonation. Mais évidemment, on parle de la question du Moyen-Orient avec l'augmentation des prix du Brent, avec les tensions sur l'ensemble des matières premières. Ce salon Global Industries, Roland Lescure, il commence avec des agriculteurs qui ne sont pas contents. Ce matin, on a des membres de la FNSEA qui disent « c'est pas des miettes, c'est du foutage de gueule ». Ce sont les mots des responsables de la FNSEA dans les Échos ce matin. On a sur le périphérique quelques opérations escargots avec des routiers. Il semble que les 70 millions qui ont été annoncés en fin de semaine ne sont pas suffisantes pour ces secteurs d'activité. Est-ce que c'est un début ? Est-ce que vous avez d'autres mesures prêtes à l'emploi pour ces secteurs ?
Bon, d'abord, je comprends qu'on soit dans une situation difficile, notamment pour les secteurs que vous avez mentionnés, les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs et d'autres d'ailleurs. Est-ce que c'est un début ? C'est déjà un début, effectivement. 70 millions sur un mois. On parle juste du mois d'avril. Concentré sur 3 secteurs qui sont effectivement les plus exposés. Vous savez que aujourd'hui commence la campagne, ce qu'on appelle du chèque énergie. On va avoir près de 4 millions de ménages français, plus de 6 millions de Français, qui vont recevoir un chèque dans les jours qui
C'était
viennent.
C'était déjà prévu, ça.
Non, mais bien sûr. Mais oui. C'est quand même 150 euros en moyenne qui vont arriver, j'allais dire, dans les boîtes aux lettres des ménages qui sont concernés. La prime d'activité, c'était aussi prévu. Mais c'est 50 euros de plus par mois pour ceux qui ont des rémunérations faibles. Donc, on essaye d'accompagner du mieux possible les secteurs en première ligne, les gens les plus concernés, les gens les plus précaires, dans un environnement, oui, budgétaire qui est contraint, mais surtout ouais. Dans un environnement où il faut que l'euro public soit efficace. On va suivre la situation de très près. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, évidemment, dans le courant du mois d'avril, on va faire le point sur la situation. Et si on doit poursuivre, amplifier ou réduire les mesures au mois de mai, on le fera. C'est une crise qui bouge tous les jours. On était en dessous de 100 euros, 100 dollars le baril. On est aujourd'hui à 115. Donc, évidemment, on suit ça au jour le jour et on va s'adapter. Il faut être agile, il faut être juste et il faut être rapide.
Et pas se planter en arrosant dans le désert, par exemple.
Non, mais par
subventionner
exemple,
l'essence, c'est ce que demandent hein, les agriculteurs ou les gros rouleurs. En fait, ils veulent des subventions directes à l'essence, c'est ça qu'ils demandent.
D'abord, c'est ce qu'on fait indirectement, mais on organise des baisses de 20 centimes le litre pour les pêcheurs, pour les transporteurs notamment. Deux, subventionner directement l'essence, c'est contre-productif. D'abord parce que la volatilité des prix est telle que vous risquez assez vite d'être balayé, même si vous baissez de quelques centimes. Ça s'est vu dans le passé par des fortes hausses liées à ce qui se passe dans le Golfe. Et puis ensuite, on est aujourd'hui face à une crise dans laquelle la solidarité, je l'ai vu ce matin ici d'ailleurs, est essentielle.
Donc, ça veut dire sur les délais de paiement, par exemple, être fair avec ses fournisseurs.
Le MEDEF et la FEP, trois grandes organisations patronales, se sont engagées à s'assurer que les délais de paiement seraient respectés de ce qu'on appelle des grands donneurs d'ordre vers les plus petits. Il faut que... Vous savez qu'aujourd'hui, les transporteurs routiers, notamment les grands, ils ont la capacité de passer la hausse du gasoil dans leur facture.
Oui.
Il faut qu'on accélère ce mouvement-là. Philippe Taboureau l'a permis dans un certain nombre de mesures qui fait qu'auparavant...
Ça veut dire partager avec vos clients. C'est ça que ça veut dire. C'est que vos clients participent à votre facture de carburant.
On fait face à un choc extérieur important qu'on va devoir payer tous ensemble. La question, c'est comment on partage ce coût ? Comment on partage ce coût de manière aussi solidaire que possible, y compris avec l'État qui fait sa part ? 70 millions sur un mois, vous imaginez si ça dure un an, ce que ça veut dire ? J'espère que ça ne durera pas un an. Donc on est sur un État qui fait sa part, sur des grands donneurs d'ordre qui doivent faire sa part, sur les ménages qui doivent faire leur part. Acheter du poisson.
Donc,
on est à Pâques. Le poisson, c'est important. Acheter du poisson. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pêcheurs, effectivement, qui font face à une hausse du gasoil qui est importante.
Et puis, dernier point. Choc ne sera pas gratuit. Il faut faire bien comprendre. Il va falloir...
Le choc ne sera pas gratuit. On va essayer d'amortir au maximum l'impact sur la croissance. Mais regardez ce qui se passe ailleurs dans le monde. On est aujourd'hui en Asie. Là-bas, c'est un vrai choc pétrolier, je peux vous le dire, où on a des mesures de restriction, on a des mesures
et
de forte hausse de prix sur le gaz, sur l'essence aussi. Donc, il faut qu'on soit à la fois conscient qu'on est dans une période et dans une capacité de la France à absorber plus importante qu'en 22, on n'est pas en 2022, mais qu'on fait face à un choc qu'on doit partager ensemble. L'État fait sa part, chacun doit faire la sienne.
Alors, chaque journée, un nouveau sujet d'actualité. Désormais, c'est l'aluminium. Il y a eu des attaques contre des gros sites cette nuit, enfin ce week-end au Moyen-Orient et au Bahreïn. Il y a notamment Alba qui est touchée. Le Moyen-Orient, c'est 9% de l'aluminium primaire. Est-ce que vous êtes inquiet pour des sites comme Aluminium Dunkerque, dont c'est le repreneur? Est-ce qu'il peut y avoir des difficultés de stock, d'approvisionnement?
Alors d'abord, Aluminium Dunkerque, vous l'avez dit, c'est la plus grande aluminium d'Europe. Et elle est à Dunkerque. Donc évidemment, elle tourne à plein régime. Et j'allais dire, tant mieux qu'on ait gardé de l'industrie importante comme celle de l'aluminerie. Elle est en passe d'être reprise par une aluminerie du Bahreïn. Nous, on a été en échange avec eux à ce stade. D'abord, les dégâts ne sont pas encore complètement évalués pour ce qui est des attaques qui ont eu lieu sur place. Mais surtout, ils continuent évidemment à vouloir se diversifier et notamment à acheter la plus grande aluminerie d'Europe. Donc non, il y a un effet prix. L'enjeu sur l'aluminium, comme sur les engrais, comme sur l'essence, comme sur l'hélium, aujourd'hui en Europe et en France...
La liste commence à être longue. Ouais.
C'est un enjeu de prix. C'est pas un enjeu de... Non mais c'est important quand même de dire qu'aujourd'hui, on ne manque pas d'essence, on ne manque pas d'engrais, on ne manque pas d'hélium. Donc c'est un...
Sur le polypropylène, par exemple, on commence à avoir des problèmes
prix importants.
De stock, gens qui disent « je vais arrêter l'activité ».
Oui, on n'en est pas encore là, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a mis en place un suivi filière par filière avec France Industrie, la chimie, la plasturgie, la microélectronique, dans lequel il y a des enjeux liés à l'hélium. Donc on va suivre ça. On a appris, en fait, de 2022, où on s'est retrouvé au sortir de la crise, face à des problèmes d'approvisionnement, sans trop savoir... Exactement, ce qu'on avait, ce qu'on n'avait pas, tout ça on le suit au quotidien.
Et on pourrait avoir du chômage partiel par exemple, dans
alors,
les cas où il faudrait
activer la production. Le ministre du Travail l'a déjà annoncé dans des secteurs particuliers, par exemple le secteur des agences de voyage. Évidemment aujourd'hui le tourisme fait face à une crise énorme, il y a des gens qui allaient au Moyen-Orient, qui n'y vont plus, dans le Golfe. Et donc il faut qu'on ait une mesure adaptée pour chaque secteur. Il n'y a pas de mesure à taille unique qui va concerner tout le monde, qui va coûter une fortune et qui va être efficace. Il faut qu'on regarde secteur après secteur. C'est pour ça que les ministres concernés sont tous impliqués. La ministre de l'Agriculture, la ministre de la Pêche, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui est très impliqué, pour qu'à chaque secteur, on puisse adapter la réponse. Et notamment, vous l'avez dit, avec l'activité partielle, pour des secteurs qui font face à un enjeu de demande. Mais aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est les prix.
Déficit public 5,1% au lieu des 5,4% qu'on attendait. Est-ce que ça représente une cagnotte, une sorte d'argent dont on pourrait discuter?
De l'oxymore que vous venez de prononcer, paradoxe, une cagnotte alors qu'on a 5,1% de déficit. Non, c'est une bonne nouvelle, on l'apprend, mais qui montre qu'il faut continuer les efforts face à une situation budgétaire qui clairement n'est pas durable. Pour qu'elle soit durable, il faut passer en dessous de 3%. C'est le seul chiffre qui permet de stabiliser la dette. On a cet objectif pour 2029 et on le maintient. Maintenant, ça veut quand même dire que quand on veut, on peut. On a suivi...
On n'a pas beaucoup baissé les dépenses quand même, plus 40 milliards.
Hein. Effectivement, et on a fait voter...
En surtout tout cas, fait rentrer des recettes.
On a fait adopter un budget cette année où l'équilibre entre dépenses et recettes est plus important. L'année dernière, c'est des dépenses qui ont été tenues, mais essentiellement des recettes qui ont augmenté. Il faut que cette année, en 2026, on tienne les dépenses. Et c'est pour ça qu'on est parcimonieux dans nos aides sectorielles. C'est pour ça qu'on les gage par d'autres économies. Parce que ce que vous dépensez aujourd'hui, quelqu'un devra le payer demain. Le contribuable, notamment l'État qui doit payer des frais sur les taux d'intérêt de plus en plus élevés. Nos enfants, nos petits-enfants. Donc voilà, moi je souhaite qu'on soit dans cette crise solidaire, qu'on se rassemble, que les secteurs qui sont le plus concernés, on puisse les aider, mais qu'ils comprennent aussi, et je pense qu'ils comprennent, que notre situation est une situation difficile, face à un choc externe, dans lequel le quoi qu'il en coûte n'a aujourd'hui aucun sens, soyons-en confirmés.
Est-ce que l'OAT vous empêche de dormir là? 3,89%, on est quand même sur des plus hauts de 20 ans. Alors certes, on a déjà beaucoup émis de dettes, donc on a fait quasiment tout le programme, mais on ne peut...
On a fait un tiers du programme, merci aux services qui l'ont fait de manière efficace.
Et ça fonctionne bien et la demande de la dette est toujours
d'abord,
élevée.
On a toujours des investisseurs qui croient dans la signature de la France, donc tant mieux, ils achètent notre dette et on arrive à se financer. De janvier-février a plutôt été meilleur qu'attendu. Mars, évidemment, du fait de la crise, un peu moins bon. Donc, sur les taux d'intérêt en moyenne, sur le premier trimestre, on est en phase. Mais il est évident que l'intensité, la durée de la crise va avoir des conséquences sur tous les sujets dont on parle. L'économie, l'inflation, les secteurs et la charge de la dette. Et c'est pour ça qu'il faut que, au fond, cette crise, elle soit la moins longue possible, que les efforts du président de la République, du ministre des Affaires étrangères pour désescalader c'est la seule chose qui compte. Parce que tant que le détroit d'Ormuz est fermé, tant qu'il manque du pétrole, tant qu'il manque du gaz, tant qu'il manque de l'hélium ou des engrais, on va avoir des sujets d'approvisionnement, des enjeux de prix et donc des enjeux de croissance.
Mais on a l'impression, Roland Lescure, un des sujets ici, c'est la décarbonation, qu'on attend quand même d'avoir le pétrole à 112 dollars pour réfléchir aux investissements. À un moment donné, on a toujours ce même discours. On n'anticipe pas. Quand il était à 50, franchement, on parlait beaucoup moins d'investissement green. Hein.
Moi, j'ai porté la décarbonation de l'industrie depuis 2022, quand j'ai été nommé ministre de l'Industrie. Depuis, le pétrole, il a fait yo-yo, des hauts et des bas. Il faut le faire. Dans les années 70, on était à 90% d'hydrocarbures dans notre énergie. Aujourd'hui, on est à 60%. C'est bien, mais c'est encore trop. La programmation pluriannuelle d'énergie, elle vise qu'on passe à 40%, puis à 35%.
Mais on est en dessous en termes de demande d'électrification. On est en dessous de ce qu'on devrait faire.
C'est la raison pour laquelle le Premier ministre a annoncé dès cette semaine un grand plan d'électrification. Il faut qu'on ait plus de pompes à chaleur, ça tombe bien, elles sont fabriquées en France. Il faut qu'on ait plus de véhicules électriques, ça tombe bien, elles sont fabriquées en France. Il faut qu'on ait davantage de fours électriques chez les artisans qui consomment encore du gaz. Il y a 20 à 25% des boulangers qui ont des fours à gaz. C'est Churchill qui disait, il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Dans cette crise, il faut en profiter pour accélérer la réindustrialisation, la décarbonation, l'électrification. La France, elle a des atouts. Elle a une électricité pas chère, décarbonée en volume. Elle a des ingénieurs. Elle a des jeunes qui veulent travailler dans l'industrie.
Oui, mais ils vont vous parler normes et impôts, là, dans les années.
Sur les normes, vont parler... simplifie et il faut continuer.
Sur les impôts, sur les sociétés, sur taxes.
Il faut baisser les impôts. Mais on ne baissera pas les impôts si on n'arrive pas à baisser les dépenses. Sinon, on renvoie ça aux générations d'après. Il faut à la fois baisser les dépenses et baisser les impôts, aider les plus fragiles, accompagner la décarbonation. Ce n'est pas facile, mais c'est mon travail, c'est le travail de Sébastien Martien qui est ici pendant 4 jours pour accompagner les industriels, et c'est aussi le travail des industriels. Ils sont très près, il y a 63 mines, je pense, exposants pendant 4 jours, qui vont montrer que l'industrie française, elle peut se développer, elle peut s'exporter, elle peut se décarboner. On a une chance énorme. Ça fait 10 ans qu'on a changé de braquet sur l'industrie, il faut continuer.
Et l'Europe, elle a changé suffisamment ?
Elle a changé dans les mots. On parle maintenant de préférence européenne.
Le contenu local, 75% pour les véhicules électriques.
Il faut
électriques.
Qu'on accélère, il faut qu'on change là aussi un peu de logiciel. Stéphane Séjourné était là avec nous tout à l'heure. Je pense qu'il est convaincu. Il faut qu'on fabrique en Europe. On ne peut pas être les derniers ravis de la crèche à aller chercher ailleurs ce qu'on pourrait faire chez nous. Il faut qu'on le fasse de manière compétitive, de manière innovante. Moi, ici, là, il y a un tiers des exposants qui sont étrangers, des Portugais, des Italiens, des Roumains. Je viens de les voir. Eux, ils disent, c'est la première fois que je vais en France pour un salon, parce que je trouve qu'il se passe des choses chez vous. Il faut qu'on continue ça. Vous savez que la France est le pays le plus attractif d'Europe depuis 7 à 8 ans. Il faut qu'on continue ça. Choose France. Choisissez la France, y compris si vous êtes français. On fait face à des vents de face énormes. Il faut qu'on continue à se développer. Et j'allais dire, j'entends les colères des uns et des autres, mais plus on sera solidaires, déterminés et ensemble, plus fort on sera. Donc, par exemple, le droit de manifester, il existe, manifester. Mais n'oublions pas que l'enjeu majeur, il est aujourd'hui de préserver l'activité, pas de l'interrompre.
Merci beaucoup Roland Lescure d'avoir été sur le plateau de BFM Business. Retour avec Guillaume Paul sur le plateau de Tout pour Investir. Je vous retrouve demain 6h, 9h dans la matinale de l'économie. On continuera bien sûr à parler industrie.
Merci beaucoup Laure en direct de Villepinte. Et nous, on va continuer à se délocaliser. Midi, cet après-midi du côté de Global Industrie, bien sûr, en direct sur BFM Business. Ils sont avec nous à 11h19. Ils ont écouté le ministre avec beaucoup d'attention, nos déchiffreurs. Gustave Sanden, bonjour Gustave, ça va? Cofondateur de Colbert, Vincent Gras. Bonjour Vincent, directeur France de Trade République. Bon, le choc n'est gratuit pour personne, disait le ministre. C'est vrai pour les matières premières. C'est vrai pour les marchés. On est à un mois de conflit. On voit les marchés américains. On fait du moins 8, moins 7. Ça va peut-être être de trop pour Donald Trump. C'est peut-être le momentum que les marchés vont relever. Quoi. 8%.
C'est à la fois...
Ce sont eux qui vont siffler la fin de la partie, in fine, ou pas, Gustave là.
C'est à la fois un vrai repli. Moins 9% pour l'indice MSCI World depuis le début du conflit. Et à la fois, c'est pas tant que ça. Je vous rappelle, il y a 12 mois à peine, on a eu un drawdown, une baisse de plus de 20% sur les marchés, sans conflit. Donc 20%, c'est un peu le seuil académique pour dire c'est un crack. Donc c'était un micro-crack, puisqu'il était très court. Là, on voit qu'on est qu'à moins 9. Donc à la fois, c'est effectivement jamais très agréable quand on est investisseur de voir son portefeuille reculer de 9%. Et en même temps, ça reste assez mesuré. Là où je m'inquiéterais un peu plus, c'est de voir qu'effectivement, il n'y a pas grand, grand endroit où se cacher, en fait. C'est-à-dire que les obligations, on parlait de 2022 tout à l'heure, tout ça est évidemment lié. Quand les obligations et les actions baissent en même temps, là, ce n'est pas très agréable. Donc, c'est arrivé effectivement il n'y a pas si longtemps en 2022, mais ça reste des faits assez rares. Et ça, c'est un petit peu plus inquiétant. Et on voit qu'effectivement, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Même la valeur refuge par excellence, l'or, moins 15% depuis le début du conflit. Donc en fait, si vous n'êtes pas investi sur le pétrole ou sur quelques matières premières énergétiques, ça a été très compliqué quand même ces dernières semaines.
Il y a un chiffre qui nous avait glissé ce matin, Vincent, avant de venir, c'est le chiffre de la réserve fédérale de Dallas sur les conséquences du retrait des approvisionnements de pétrole depuis Hormuz. Ça peut faire mal sur...
Eh bien oui, 20% de la production mondiale qui serait bloquée à cause de la fermeture du Détroit, ça aurait un impact de 2,9 points de pourcentage sur la croissance mondiale. Et encore, c'est assez conservateur comme chiffre. Ça ne tient pas du tout compte du blocage sur les autres matières premières qui passent par le Détroit, notamment le gaz naturel liquéfié. Ce qu'on sait aussi, déjà depuis maintenant plusieurs semaines, c'est que c'est surtout l'Asie et la Chine qui sont impactées par la fermeture de ce Détroit. Donc, au-delà du fait que le pétrole monte et que Trump peut se retrouver en position assez délicate, notamment vis-à-vis des élections de mi-mandat qui vont arriver à la fin de l'année, c'est exactement le sujet que Gustave vient d'évoquer, qui est même un portefeuille diversifié, d'un particulier ou d'un professionnel, actuellement subi. On peut avoir une très bonne diversification.
On ne sait plus où se planquer, pardon de le dire comme ça, on ne sait plus où se réfugier. Quoi. Voilà, c'est ça, vous êtes d'accord?
Exactement.
Avec...
L'or a effacé tous les gains du début d'année. Les obligations, les actions, ça baisse en même temps. Donc même un portefeuille
pétrole,
60-40 est en train de subir. Mais en même temps, cette baisse n'est pas dramatique. Elle n'est pas énorme. On est sur une correction. Donc au-delà de... à peine au-delà de 10% par rapport au pic qu'on a eu. Donc on parle d'une simple correction, mais on ne parle pas d'un crash. Donc c'est un peu, la situation est un peu floue dans le sens où ça n'a pas forcément suffisamment baissé pour se permettre de réinvestir pour ceux qui ont la stratégie du buy the dip. Mais en même temps, l'issue du conflit actuel est tellement floue entre Trump qui fait du taco, mais maintenant qui est plutôt pro-baisse des prix du pétrole, donc il fait des marches arrière. La visibilité est tellement nulle qu'au final, je pense que la bonne idée du moment, c'est d'avoir soit un peu de cash, soit un peu d'obligataire court terme. On voit les obligations, par exemple, AT 2 ans, celle de février 2028, c'est du 2,87.
Ouais.
Voilà, ça rémunère le cash, le risque est maîtrisé, ou sur les taux sans risque, aux environs de 2%.
Qu'est-ce qu'on fait, Gustave? Même question, est-ce qu'on attend effectivement? Il y a beaucoup de nervosité encore aujourd'hui des marchés qui semblent considérer que peut-être l'entrée des outils dans le conflit, je dirais pas un game changer, mais enfin, plaide, atteste plus l'idée d'un conflit long, effectivement, au contour indécis.
Ce qui est très difficile dans ces moments, c'est de parler
d'une chose. Les propos contradictoires de Trump, enfin voilà, ça peut constituer un facteur aggravant aujourd'hui dans la perception.
Ce qui est très difficile, selon moi, dans ces moments, c'est de parler d'autre chose et d'avoir un autre news. D'ailleurs, j'imagine que vous ressentez la même chose en tant que journaliste. Oui. Et donc, on oublie presque tous les autres sujets qu'on aurait abordés normalement. Typiquement, il y en a un qui est un petit peu passé au travers, qui, moi, m'a beaucoup interpellé. C'est la réévaluation à la hausse des attentes des analystes pour Wall Street. C'est-à-dire qu'à la hausse, donc, des résultats qui sont attendus plus haut que prévu dans ce marasme. Donc, en fait,
sur l'année 2026.
Sur l'année 2026. Donc, on a une revue à la hausse des earnings, donc des revenus. Sur tous les trimestres, les revues à la hausse, donc Q1, Q2, Q3, Q4, parce que même Q1 n'est pas encore sorti, il y a eu une revue à la hausse, typiquement sur Q1, je crois qu'on est passé de 10,9 à 11,9% de croissance des revenus. Donc, non seulement il y a 10,9% de croissance des revenus qui était attendue, je le dis parce que c'est peut-être pas naturel pour tout le monde de le penser, et ils ont été réévalués encore une fois à la hausse à 11,9%. Ça, c'est les fondamentaux.
Ça vous paraît pas prématuré de revoir à la hausse maintenant, aujourd'hui, à ce stade de
Je pense que c'est des gens qui sont quand même qualifiés
pour le faire.
Et ils ont une data que moi, j'ai pas.
Mais ça peut paraître contre-intuitif, évidemment.
Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce conflit, il a évidemment des incidences mondiales et il a notamment des incidences manifestes sur l'inflation au travers de la crise énergétique qu'il produit.
Ouais.
Mais il y a tout un tas d'autres industries d'économie qui aujourd'hui continuent à performer. Et la grande inquiétude quand même, excusez-moi, du coup je reviens à notre autre grande thématique qu'est l'IA, c'est de se dire finalement, est-ce qu'on est capable de faire de la croissance économique sans créer d'emplois et si on est moins dépendant, de l'emploi et de la consommation pour créer de la croissance économique, alors tout est possible. Et c'est probablement ce que sont en train de pricer ces analystes. Je le rappelle, c'était l'IA s'est un peu propagée dans les marchés et dans l'économie en plusieurs temps.
Ouais.
Et là, c'est un peu le temps de l'agentique, c'est-à-dire vraiment des gains de productivité industrielle pour tous.
Ouais.
Et c'est peut-être ça qui est en train d'être pricé.
Vincent, est-ce que ça va être le moment des banques centrales qui vont apparaître encore comme les grandes
grandes arbitres? On peut s'attendre évidemment à une inflation.
Les banquiers centraux, les grands sauveurs du moment, une fois de plus, ça va encore se terminer comme ça.
Oui, enfin, l'augmentation des taux n'a jamais fait baisser le prix du pétrole.
Non.
Donc, en effet, on peut s'attendre à une inflation, notamment sur le côté énergétique. Du coup, on peut s'attendre à une augmentation également des taux des banques centrales pour venir un petit peu ralentir tout ça.
Dès le mois d'avril, là
à voir,
Les anticipations sont fortes en Europe, notamment sur une hausse.
En Europe, surtout, parce qu'on était déjà à 2,6 en février.
Ouais.
Ça risque d'augmenter. Ça, surtout, ça ne va pas aider le gouvernement. Qui, en effet, ça va faire augmenter le poids de la charge de la dette d'une façon mensuelle, ce qui va venir un peu plus compliquer le budget de notre gouvernement.
Oui.
Je rappelle que la France actuellement est à 3,83 sur le taux à 10 ans. Ça fait un spread à plus de 0,70 avec l'Allemagne. C'est assez historique d'avoir un spread aussi écarté. Donc voilà, quand on entend notre ministre parler de baisser les dépenses et baisser les impôts en même temps, le contexte global mondial ne va pas leur faciliter la tâche.
Bon, moment des banques centrales pour vous aussi, Gustave, même question, on termine là-dessus, mais c'est évidemment...
Il faudra le suivre. En tout cas, l'Europe a voulu un peu s'émanciper, je le rappelle, dans ce cycle de baisse de taux, puisqu'on avait pris les devants par rapport à nos chers amis américains, alors qu'on a plutôt la réputation de suivre, c'est eux qui donnent le là. Attention, du coup, on a peut-être moins de marge de manœuvre pour justement maintenir nos taux. Et ce serait dommage d'être pris de court. Donc, est-ce que cette émancipation nous sera coûteuse? J'espère pas. Mais effectivement, il y a ce décalage.
C'est ultra important parce que lors du dernier choc, notamment du début de la guerre en Ukraine, quand la BCE a augmenté les taux, on partait d'une base en territoire négatif.
Ah, c'est pas la même, ça je suis d'accord.
Là, on part d'une base quand même à 2% déjà.
Ah, oui.
Donc la marge de manœuvre est complètement limitée.
Ouais, le 10 ans français là, qui remonte aux alentours de 3,86, niveau qu'on a atteint il y a quelques jours. On est sur du plus haut depuis juin 2009. Donc là, vous êtes à cheval entre la crise des subprimes et la crise de la dette souveraine en zone euro. Donc période pas très heureuse. À surveiller. Malheureusement, c'est déjà terminé. Merci messieurs. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Gustave Sandon, cofondateur de Colbert, et Vincent Grard, directeur France de Trade République. Merci messieurs. À très vite. Il est 11h28, l'arbitrage tout de suite sur BFM Business.
Tout pour investir, arbitrage.
Michel Delobel est avec nous, gérant de portefeuille sous mandat chez MW Gestion. Bonjour Michel, donc on a un CAC 40 là qui hésite pas mal, on tourne autour de l'équilibre, plus 0,1%, la configuration de marché très 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 incertaine là Michel.
Oui, ben ça fait quelques temps que ça dure et je regardais justement avant de prendre l'antenne la configuration du CAC 40 est très similaire à ce qu'on a eu il y a 15 jours. En fait, lundi dernier, on avait eu une forte baisse à l'ouverture avec un gap baissier, une réaction haussière qui avait pris appui sur un support. Et 15 jours avant, on avait eu un petit peu la même configuration avec un gap baissier, réaction. Et puis, s'en était suivi deux semaines d'hésitation justement au sein des deux bougies précédentes. Et là, c'est un petit peu la même chose qui s'est passée la semaine dernière. Et on peut s'attendre à ce que cette semaine soit aussi très hésitante, d'autant plus qu'en fin de semaine, on a un long week-end avec vendredi et lundi qui seront fériés à la Bourse de Paris. Donc, je suis pas sûr que les investisseurs prennent énormément d'initiatives dans un tel contexte. Surtout qu'on a en plus vu qu'il se passait souvent pas mal de choses le week-end, que les marchés sont fermés. Donc, ça n'aide pas non plus à des prises d'initiatives. Donc, il est possible d'ailleurs que jeudi, on ait quelques ventes de précaution en prévision d'un long week-end. Donc, pour l'instant, voilà, phase assez incertaine. Il faudrait qu'on casse la zone des 7500. Pour qu'il y ait une nouvelle accélération à la baisse. Et puis à la hausse, il faudrait combler le gap qu'on avait ouvert entre 7944 et 7890 pour retrouver un petit peu d'allant haussier. Je ne vois pas pour l'instant, à moins d'une actualité bien évidemment changeante. Mais pour l'instant, pas d'initiative tant qu'il n'y aura pas d'amélioration sur le front de la guerre ou d'aggravation d'ailleurs, selon le sens.
On va attendre effectivement se positionner avant un week-end peut-être incertain comme toujours. Long week-end en l'occurrence. Un mot, on a une grosse minute, Michel, pardon, pour dire un mot de Total. Vous vouliez parler de Total. Alors, qui est en hausse aujourd'hui, qui est quasiment sur des records? On va voir la courbe dans un instant, Total Energy. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à jouer sur Total ou pour vous, il est peut-être temps de prendre quelques bénéfices?
Alors, pour moi, il est sage de prendre quelques bénéfices. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien à gratter encore sur Total. Ça reste une valeur de fonds de portefeuille avec un joli rendement.
Voilà, 80 euros et 6 centimes au moment où on se parle.
Tout à fait, on est en train de franchir effectivement la zone des 80, qui est plus une zone psychologique qu'autre chose. Pour moi, la principale zone de résistance à venir se situe autour des 85 euros. Et c'est une zone sur laquelle j'aurais plutôt envie d'alléger. Ben, tout simplement, déjà, le titre, il est en hausse de plus de 40% depuis le début de l'année. On comprend un petit peu pourquoi, même si la hausse, d'ailleurs, avait commencé bien avant le conflit. Elle avait commencé fin janvier, à peu près, la deuxième quinzaine de janvier. Mais voilà, on arrive sur des niveaux de résistance importants. On a quand même connu une forte hausse. Et puis, c'est surtout que, bon, cette hausse peut s'expliquer, bien évidemment, par le conflit actuel. Mais si on regarde les futurs pétroles à quelques années, on n'est pas sur des hausses très importantes. Le marché, bien évidemment, à court terme, intègre le conflit au Moyen-Orient, mais considère que le pétrole ne devrait pas rester au-dessus des $100 de façon durable. Donc voilà, je pense que c'est un bon niveau pour alléger, prendre quelques bénéfices. C'est une valeur qu'on peut garder en fond de portefeuille, que ce que je disais, du fait du rendement. Mais voilà, c'est quand même allé très vite depuis le début de l'année. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore quelques mois, on se traînait autour des 50 euros et on a été plus bas par le passé. Voilà, puis c'est quand même une entreprise qui est quand même pas mal exposée au Moyen-Orient, qui fait beaucoup de raffinage aussi. Ça coûte de l'énergie, c'est pas gratuit non plus, même s'ils sont bien placés pour pouvoir se pouvoir en énergie. Mais voilà, ils ont fait un joli coup de trading, ce qui fait effectivement que le titre se comporte bien aujourd'hui, entre autres, hein. Mais ça, c'est pour moi, c'est plus du court terme, mais c'est pas forcément reproductible. Ouais. Donc voilà, profiter de la hausse pour prendre quelques bénéfices et pourquoi pas se repositionner justement sur des titres qui ont plus souffert de l'évolution de ces dernières semaines.
Et il y en a, c'est le moins qu'on puisse dire, absolument. 80 euros et 2 centimes pour Total qui grappille quelques 2%. C'est l'une des plus fortes hausses sur le CAC 40 ce matin. Merci beaucoup Michel, merci d'avoir été avec nous. Michel Delobel, gérant de portefeuille sous mandat chez MW Gestion. Merci beaucoup Michel, à très vite. Il est 11h32, on vient dans une minute, puis on parle patrimoine comme prévu. Airbnb, alors la location va peut-être se durcir du côté des copropriétés, on vous raconte ça. On parle des ETF et puis un des sujets du moment aussi sur les marchés, ça concerne bien sûr les fonds de dette privée en evergreen. Vous savez que ça bloque du côté des États-Unis sur certains fonds. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou alors est-ce qu'on se fait peur pour rien? On vous raconte tout ça jusqu'à midi, bien sûr. À tout de suite.
Tout pour investir sur BFM Business. Tout pour investir, la boîte à outils.
La boîte à outils à 11h34 sur BFM Business. On accueille Barbara Thomas-David qui est notaire à Paris. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler d'immobilier parce qu'il se passe des choses du côté d'Airbnb et notamment de la location dans les copropriétés. Alors, en expliquant un mot, il va y avoir un peu de changement apparemment, hein, Barbara.
Oui, il va y avoir du changement. Alors, c'est vrai que la location à Airbnb, enfin meublée touristique, oui, pour être exact, dans les copropriétés, ça a fait couler beaucoup d'encre.
Bien sûr.
Parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de copropriétaires qui considéraient ça comme une gêne, d'autres qui avaient envie de pouvoir bénéficier d'un revenu complémentaire avec du Airbnb. Donc, ça a créé des tensions et ça a abouti à une loi qui s'appelle la loi Lemeur, qui est arrivée en 2024 et qui a dit qu'il était possible au sein de copropriétés d'interdire le Airbnb à une majorité qualifiée, c'est-à-dire qu'il fallait convoquer une assemblée générale pour que l'assemblée générale interdise le Airbnb, encore une fois avec une majorité forte. Mais il y avait une condition particulière, c'est que dans ces copropriétés, il fallait déjà que les activités commerciales soient interdites.
D'accord.
C'est-à-dire que le Airbnb, contrairement à une idée reçue, c'est de l'activité commerciale.
C'est de l'activité commerciale.
Ouais. Et donc, la loi Lemeur a dit, c'est possible. Si déjà dans la copropriété, on ne peut pas faire du commerce, eh bien on peut. On peut interdire le Airbnb. Alors, la loi est passée. Et puis, il a commencé à y avoir des sujets de conflit. Le Conseil d'État a été saisi. Et il a été embêté parce que, en fait, l'argument, c'était de dire le droit de propriété, c'est un droit en France, hein, qui est inaliénable
ouais,
tout
ouais,
à fait, et qui est inscrit dans la Constitution. Ouais. Donc, c'est le Conseil constitutionnel qui s'est trouvé saisi très récemment, hein, la décision date exactement du 19 mars dernier, qui a été saisi du sujet. Est-ce que interdire le Airbnb, c'est contraire à sa libre exercice de son droit de propriété qui est inscrite dans la Constitution? Et en fait, le Conseil constitutionnel, il a tranché et il a dit non, parce que ce n'est pas l'interdiction globale de louer. C'est juste une modalité particulière de la location qui peut être interdite.
D'accord. Donc maintenant, ça se passera comme ça. Assemblée générale dans les copropriétés, majorité qualifiée. Donc c'est Alors c'est chiffré ou pas? Il y a un certain.
Oui. C'est la majorité de l'article 26 qui est la majorité la plus importante des deux tiers des copropriétés.
C'est les deux tiers, voilà.
Oui,
c'est
tout à fait.
Ce sera la règle des deux tiers. Ouais. Alors rappelez quelles sont aujourd'hui. Alors d'ores et déjà, les règles administratives pour louer son appartement sur Airbnb. Est-ce que c'est vrai que c'est devenu plus compliqué ou pas?
Alors oui. Donc en fait. Toujours se rappeler, quand on parle de copropriété, il y a les règles de droit privé, celles dont je viens de parler, vos relations avec les copropriétaires, et les règles de droit public avec l'administration, autrement dit là, avec la mairie de la commune dans laquelle vous habitez. Alors, il y a une règle très simple, c'est que lorsque vous louez votre résidence principale en Airbnb, et c'est valable également pour ce dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, c'est possible. C'est-à-dire que lorsque vous louez moins de 120 jours par an, vous faites ce que vous voulez. Au niveau de la copropriété, la règle constitutionnelle dont je viens de vous parler tout à l'heure, elle ne s'applique pas.
Ah, ça reste à 120 jours, ça ne change rien.
D'accord. Ça ne change rien.
Ok, d'accord.
Et pour le droit administratif, c'est pareil. C'est-à-dire que dans certaines villes, vous avez à avoir l'obligation de vous déclarer. Mais ce n'est pas soumis à autorisation. Donc, autrement dit, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut que les téléspectateurs retiennent, c'est que tant que c'est moins de 120 jours, on fait ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut.
Parce qu'on loue sa résidence principale. Par contre, ça bascule si vous louez plus de 120 jours, parce que la résidence est considérée comme votre résidence principale.
Et voilà.
Donc, il y a ça. Et il y a la deuxième chose qui est « Ah, je suis en train de louer ma résidence secondaire ». Alors là... c'est pas du tout la même histoire. On retombe pour ce qui est de la copropriété dont je vous expliquais tout à l'heure.
Ouais,
et puis au niveau du droit administratif, lorsque vous êtes dans des communes importantes, Paris, les villes de plus de 200 000 habitants,
grandes villes de province, bien sûr,
92, 93, 94 pour les départements, là, on est dans des zones à autorisation. C'est-à-dire que c'est pas juste une déclaration en mairie, il faut être autorisé par la mairie à louer en Airbnb. Pourquoi ? Parce que la philosophie du législateur, c'est de dire, très souvent, ce sont des zones tendues. Et si vous faites du Airbnb, eh bien, vous enlevez du parc locatif classique des biens, alors qu'il y a plein de Français qui sont en attente d'un logement. Donc voilà la philosophie de la chose. Et là, le maire peut vous interdire ou obliger à une compensation. Donc, vous connaissez le système de la compensation, c'est-à-dire qu'on vous autorise... à louer, mais il faut compenser avec un autre bien.
Alors, on parle d'Airbnb, mais c'est valable pour toutes les plateformes de location en ligne, évidemment.
Bien sûr, ça va sans dire,
mais ça va mieux en le disant. Est-ce que tous les propriétaires peuvent encore faire de la location courte durée ou est-ce que c'est compliqué en
fait? C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que si vous louez votre résidence principale moins de 4 mois par an, c'est tout simple, il n'y a pas d'autorisation à demander. Mais attention, il y a des contrôles. Hein. Si vous dépassez les 4 mois, les amendes peuvent aller jusqu'à 50 000 euros.
Donc 50 000 euros.
Bon. Ça, c'est le maximum.
Ça dépend des zones.
Ça dépend des zones, ça dépend de...
Si vous faites ça en plein Paris, intramuros Paris-Centre, on peut vite aller chercher les...
Si une résidence que vous considérez comme votre résidence principale, vous la louez à longueur d'année, vous allez ailleurs, là, ça peut être compliqué.
Évidemment. Et alors, dernière question, parce qu'au vu de tout ce que vous expliquez, il faut quand même se poser la question, est-ce que c'est encore intéressant ou est-ce qu'avec cette loi notamment, ça sera toujours intéressant sur le plan fiscal de faire du Airbnb finalement?
Ça sera intéressant quand vous faites de la location pas très longtemps dans l'année. Oui. Parce qu'en fait, vos loyers, c'est du BIC. Comme je vous disais tout à l'heure, l'activité Airbnb, location meublée touristique, c'est... du commercial. Si c'est du commercial, c'est du BIC, bénéfice industriel et commercial. Si c'est pas longtemps dans l'année, vous êtes au micro BIC, donc avec un abattement entre 30 et 50%. Donc, c'est très intéressant encore. Par contre, si vous faites ça comme une activité récurrente, habituelle, vous passez au régime BIC normal, le réel.
Oui.
Et là, c'est comme là, tout le monde. Hein. Il n'y a pas d'intérêt particulier.
Et ben voilà, donc pour les nouvelles règles pour la location d'Airbnb au sein des copros. Merci beaucoup, Barbara. Merci de passer nous voir.
Avec
Barbara
plaisir.
Thomas David, notaire à Paris, avec nous sur BFM Business ce lundi matin. Merci beaucoup, à très vite.
Merci.
11h41, le placement à suivre tout de suite sur BFM Business.
Tout pour investir, le placement à suivre.
On va parler un petit peu des ETF, parce qu'il se passe des choses sur le monde, dans le monde des ETF en France notamment. On est avec Julien Nebenzal qui doit être avec nous en visio. Bonjour Julien, est-ce que vous nous voyez ou est-ce que vous nous entendez? Non, pas pour l'instant. Julien n'est pas avec nous, on va le récupérer dans un instant. Ben, c'est pas grave, on vous redonne rapidement ce qui se passe sur le CAC 40 qui, pour l'instant, tourne autour de l'équilibre, plus 0,04%, 7704 points pour l'indice parisien. Puis vous voyez ce qui se passe en ce moment sur les autres grandes places européennes. Le DAX qui tourne autour de l'équilibre, le FTSE plus 0,6, le MIB 30 à Milan qui progresse de 0,17%. On regarde les hausses rapidement à la bourse de Paris, Thalès qui s'envole de 3%. On revient sur les défensives un petit peu. Engie, Danone qui grappille aux alentours de 2%. Et puis Total Energy qui progresse également de 2% porté par la hausse des cours du pétrole. Et puis du côté des baisses, vous voyez le secteur bancaire notamment qui souffre de la conjoncture actuelle, Société Générale et BNP Paribas. La Générale Lanterne Rouge, moins 2%, 61 euros. BNP, moins 1,3%, 80 euros. Et puis on perd aux alentours d'1,6%, 1,7% sur Sanofi. Ou encore Accor, apparemment on a récupéré Julien. Je ne sais pas s'il nous entend. Bonjour Julien, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez?
Je vous entends.
Voilà, merci beaucoup d'être avec nous, Julien, responsable des solutions d'épargne chez eToro. On va parler des ETF, parce que vous nous dites qu'il y a une vague d'investisseurs en ETF en France, une nouvelle vague d'investisseurs qui se profile. Expliquez-nous ça, Julien.
Oui, il se passe quelque chose de très intéressant. Alors, je pense que bon, les auditeurs connaissent bien les ETF. Je voudrais quand même rappeler deux, trois petites choses. Les ETF, c'est des nouveaux produits qui viennent des États-Unis, qui ont été lancés en Europe sur Euronext en 2007. Il s'agit de fonds communs de placement qui ont une particularité. Ils cotent en bourse en temps réel. Alors, on peut se demander d'où ça vient, cette idée de coter un fonds en temps réel qui date maintenant de plus de 20 ans. Eh bien, il faut, pour qu'un gérant propose que son fonds soit coté en temps réel, il faut qu'il puisse le valoriser en temps réel. Et une bonne manière de valoriser en temps réel un fonds, eh bien, c'est de faire en sorte qu'il suive lui-même ce fonds quelque chose qui est en temps réel. Et dans les choses qui sont en temps réel et qui sont sous nos yeux, il y a évidemment les indices boursiers. Et c'est comme ça que les ETF sont devenus, enfin, sont des fonds qui cotent en temps réel en suivant des indices. Il y a un autre aspect qui est important à voir dans les ETF, c'est comme ils suivent un indice, eh bien, par rapport à une gestion active avec des gérants et des analystes, on a besoin de beaucoup moins de ressources, simplement de suivre un indice. Et comme il y a besoin de moins de ressources, eh bien, ça coûte moins cher. Donc, les ETF sont des produits qui ont des frais beaucoup plus bas que la gestion passive, la gestion active traditionnelle. Et le troisième point qui est à savoir sur les ETF, c'est que les rendements des ETF sont bons, surtout quand on les compare à ceux des gérants actifs, parce qu'en fait, et c'est un sujet assez vaste, les gérants actifs ne battent pas très souvent, on va dire, leur indice de référence ou leur compétiteur ETF. Et donc, en termes de performance finale, sur des périodes de 5, 10 ou 15 ans, eh bien, il est intéressant pour les investisseurs de se positionner sur des ETF par rapport à la gestion active. Maintenant, la chose importante dont je voulais parler aujourd'hui, c'est qu'on a une étude récente de BlackRock qui est très intéressante sur l'attitude des Français sur les ETF. Et surtout, le futur de tout ça. Alors, je vais vous préciser que eToro et BlackRock sont partenaires au niveau international et au niveau français. Et je vais m'appuyer sur leur étude, mais je m'appuie en tant qu'eToro et non pas en tant que BlackRock. Alors, la première chose, c'est que le nombre d'investisseurs en ETF a bondi de 91% en 3 ans. C'est spectaculaire. Alors, on partait un peu de loin. On avait 3% des Français qui détenaient des ETF en 2022 contre 21% en Allemagne. Mais aujourd'hui, on a, tenez-vous bien, 2,6 millions d'investisseurs en ETF. C'est le cinquième produit financier le plus populaire dans le pays. Ouais. Et c'est devant les cryptos.
C'est devant les cryptos, hein, c'est ça, Julien. Oui, c'est ça qui est impressionnant.
Exactement. Alors, d'ailleurs, en référence aux cryptos, ce qui est tout à fait fascinant dans cette étude sur ce qui s'est passé depuis 3 ans, c'est que la vague, elle est portée par les jeunes. On a un investisseur sur deux qui a moins de 35 ans en France. Et ça, on peut le comparer avec le reste de l'Europe, c'est tout à fait français, c'est très singulier. En fait, c'est le croisement de ce que je disais avant. Les jeunes sont par définition un peu plus débutants, c'est normal, que leurs aînés. Et ils trouvent un produit qui n'est pas réservé aux experts, parce que c'est un produit qui est simple. C'est un produit qui se comprend très rapidement. Et comme il a des faibles coûts, des bonnes performances, eh bien forcément, ça devient un outil privilégié par ce qu'on pourrait appeler des primo-investisseurs. J'ajoute que cette étude nous indique indique que tous les profils sont concernés, y compris les ménages aux revenus modestes. C'est-à-dire que les ETF ne sont pas un produit de niche, ne sont pas non plus un effet de mode, c'est quelque chose qui est tout à fait ancré. Et la vague, selon cette étude de BlackRock, ne fait que commencer. On devrait avoir d'ici un an, d'ici début 2027, 1,6 million de nouveaux investisseurs en ETF. C'est-à-dire une hausse de 60%. Et là encore, la moitié seront des jeunes de moins de 35 ans. Ce qu'on sait aussi dans cette étude, c'est comment ce mouvement qui va se prolonger va se former. Eh bien, les investisseurs vont s'intéresser à ces produits d'abord au travers des plateformes digitales elles-mêmes. Donc, c'est toute l'infrastructure aujourd'hui d'investissement qui permet ça. C'est à hauteur de 38%. Mais aussi, bien sûr, les médias financiers, 35%. Et puis, arrive dans les sources d'informations et de décisions d'investissement, arrivent les influenceurs que nous connaissons et, bien sûr, l'intelligence artificielle. Et tout ça, ça se produit dans un cadre de plans d'épargne automatisés qui sont extrêmement simplifiés. Il faut savoir que les néo-investisseurs, ceux qui entrent en bourse, choisissent pour, dans un cas sur deux, un plan d'épargne déjà automatisé. Alors, est-ce qu'on aura du potentiel une fois que tout ça se sera produit? Je crois que oui, parce que cette même étude nous dit qu'on a 54% des Français qui n'ont pas vraiment entendu parler des ETF. Alors, ça veut dire que malgré toute cette croissance qu'on a eue et celle qui arrive, il y a un réservoir véritablement considérable. Il est donc possible que la France devienne un des grands pays des ETF en Europe. C'est quelque chose que nous indique cette étude. Et c'est, à mon avis, très important pour l'avenir financier de tous.
Voilà, donc pour cette étude de BlackRock dont vous nous parlez ce matin. Rappelez quelques conseils de base, Julien, pour les plus jeunes notamment, ne discuter qu'avec des interlocuteurs agréés par l'autorité des marchés financiers. Règle de base, évidemment, hein, Julien, qu'on rappelle toujours. Hein.
Bien sûr. Il faut toujours s'enquérir avant tout de l'endroit où on va placer son argent et de la manière dont on va être traité, donc respecter les consignes que les régulateurs vous donnent, c'est-à-dire utiliser uniquement des plateformes qui sont régulées en France, autorisées.
Voilà la nouvelle vague des ETF en France. Merci beaucoup Julien, merci d'avoir été avec nous quelques minutes, responsable des solutions d'épargne chez eToro. Julien Ebenzal avec nous sur BFM Business. Merci beaucoup. 11h48, TPI l'événement, tout de suite.
Tout pour investir, l'événement sur BFM Business.
Et c'est Stéphane Ruzinski qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue Stéphane Ruzinski, président et cofondateur de Rétores Finance. Pour parler d'un sujet dont on vous a déjà parlé sur BFM Business, parce que ça accapare nos esprits un petit moment, c'est les fonds de dette privée Evergreen. Il a échappé à personne qui avait en ce moment des blocages temporaires du côté de certains fonds aux États-Unis. Globalement, Stéphane, pour vous, faut s'inquiéter ou on se fait peur pour rien dans cette histoire? Comment vous regardez ça?
Je pense que le marché se fait un peu peur pour rien. Il a réagi sur trois chocs, enfin finalement deux chocs qui ont entraîné le blocage. Le premier choc, ça a été une série de faillites qui est arrivée aux États-Unis, deux aux États-Unis et une en Grande-Bretagne. Qui a commencé à faire peur un peu aux opérateurs de marché. Et puis, on a eu ce SaaS apocalypse qui est arrivé là en février 2026 avec Anthropix qui lance Claude Cowork version 4.6. Donc, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais c'est assez puissant puisque vous pouvez relier directement Claude maintenant à votre disque dur ou développer des agents IA en les branchant à votre CRM, à plein de choses. Et ça a beaucoup inquiété les marchés. Vous l'avez vu sur les marchés cotés, ça a perdu moins 30, moins 35%. Et y a beaucoup de sociétés de logiciels qui sont aussi financées par la dette privée avec des leviers de 4 à 7. Donc, on s'est posé beaucoup de questions. Donc, ces faillites, ce SaaS apocalypse a entraîné des demandes de retrait massifs en fait sur les fonds de dette privés Evergreen. Donc je vous rappelle, sur les fonds de dette privés Evergreen, il y a des périodes de liquidité qui sont organisées tous les mois ou tous les trimestres à hauteur de 5% de l'encours du fonds. Et là, les demandes ont été supérieures finalement à ces 5%. Donc, il y a plusieurs sociétés de gestion, BlackRock, Blackstone, Bluehole, qui ont bloqué complètement ces fonds Evergreen.
Oui, c'est pas venu d'acteurs mineurs, c'est ça qu'il faut dire. Hein. Enfin, c'est...
Non, des gros acteurs et c'est uniquement des fonds qui sont investis sur les États-Unis. Donc c'est comme une vraie indication.
C'est ça qui modère votre inquiétude, le fait que ça soit circonscrit aux États-Unis finalement.
Alors ça modère. Alors c'est pas le même marché, c'est pas le même type d'investisseur. Ouais. Les investisseurs qui vont investir sur la dette privée aux États-Unis, c'est pas les mêmes qui vont investir sur la dette privée en Europe, parce que le taux de rendement est plus faible en Europe, donc vous allez avoir des investisseurs qui sont moins opportunistes, c'est-à-dire qui vont moins rentrer et sortir. On le sait, le taux de croissance en Europe est plus faible qu'aux États-Unis. Donc, il y a moins d'entrées-sorties. Donc, pour le coup, le risque de demande de rachat massif sur les fonds qui sont largement investis sur la dette privée européenne est probablement moins fort. Après, alors moi, j'ai passé beaucoup de coups de fil en appelant beaucoup les gérants pour faire un scan vraiment des portefeuilles. Et quand on prend un peu de recul là-dessus, on a une vue qui est beaucoup moins anxiogène. D'abord, sur le risque de défaut. Bon, le risque de défaut, il est inhérent au crédit. Hein. Oui. Il y aura toujours des boîtes qui vont frauder, pour qui ça va moins bien se passer. Sur le high yield, on a un taux de défaut historique à 4%. Sur la dette privée, on a un taux de défaut à 2%. Mais je peux vous trouver des gérants qui ont un taux de défaut sur leur portefeuille de 0,3%. Donc, le premier réflexe à avoir, déjà, c'est de bien sélectionner ses gérants. Ça, c'est la première chose. Ensuite, le gros sujet qu'on a tous, mais sur tous les marchés, hein, c'est finalement l'impact de l'IA sur les logiciels qui sont accompagnés par des fonds de private equity, qui sont financés par des fonds de dette privée. Et je suis tombé sur une interview du fondateur de Thomas Bravo. Thomas Bravo, juste pour vous situer, c'est une société de gestion de private equity aux États-Unis spécialisée sur le logiciel. C'est le plus gros fonds. Ça gère 180 milliards. Et Thomas Bravo Eduardo Bravo était interrogé par une télé américaine en lui demandant son point de vue. Et il explique que, effectivement, ça va faire des dégâts. Et qu'il trouvait que, finalement, la baisse des valorisations était parfaitement justifiée pour certaines entreprises. Mais tout de suite, il rebondit sur le fait de dire que l'IA va avoir des répercussions sur les entreprises de logiciels, mais pas sur toutes. Sur celles qui traitent des données très spécifiques, sur celles qui sont dans un processus réglementaire très encadré, qui demandent de la certification. Pour lui, qui est l'expert mondial des sociétés de logiciels, il n'y aura pas de problème. Au contraire, l'IA sera en capacité de permettre à ces entreprises de monétiser davantage en fait leurs produits.
C'est bien de remettre l'église au cœur du centre du village, parce qu'effectivement, il y a de ça quelques semaines, il y a eu toute une volée, des dégagements massifs sur les valeurs des groupes de logiciels aux États-Unis du côté de Wall Street. Donc oui, c'est vrai que c'est un sujet qui est monté d'un seul coup, quoi.
Ah, exactement.
D'un seul coup, on s'est mis à taper sur les éditeurs de logiciels.
Exactement. Alors qu'il y a de tout, en fait.
Oui, il y a de tout, bien sûr.
Il y a pas de données critiques et qui vont être très facilement remplaçables par l'IA.
Oui.
Mais des entreprises de logiciels, je vous donne un exemple, les hôpitaux utilisent des logiciels pour gérer leur banque de sang. Ces logiciels-là, en fait, doivent être réglementés par l'État et certifiés par l'État.
Oui.
Impossible de rentrer de l'IA dedans.
Oui.
Impossible.
Oui.
Alors peut-être qu'on pourra améliorer la monétisation de tout ça, mais des logiciels de ce type-là, en fait, il y en a vraiment plein sur le marché. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une chasse, il y a une peur collective sur le logiciel qui est infondée. Et lorsqu'on regarde véritablement en profondeur le business de ces logiciels, on s'aperçoit qu'il y en a qui sont quand même très protégés. Et là encore, donc moi, j'ai pas une grande inquiétude là-dessus, à la fois sur la dette privée que aussi bien sur les fonds de private equity qui sont investis là-dedans, parce que si vous avez choisi des bons gérants qui ont bien analysé leur participation, qui ont analysé les risques, le fait que ces logiciels perdent des clients, vous êtes absolument protégé de l'IA.
Bon, comment on fait pour choisir le bon gérant? Ça, c'est la hyène.
On va voir un professionnel.
Je crois que c'est au fur et à mesure des semaines qu'on va se rendre compte. Oui,
exactement.
C'est quand la mer se retire, comme dit Warren Buffett, qu'on voit véritablement ce qu'il
veut. Tout à fait.
Bon, on fait le gros dos, donc en attendant de voir un petit peu.
Fait le gros dos, puis on continue.
Il y a ce qui est un signe noir observé.
Non, il n'y a pas de signe noir. Et puis, aujourd'hui, il y a effectivement quatre sociétés de gestion qui ont bloqué temporairement les rachats, mais sur l'Evergreen, la condition de la liquidité, elle n'est pas garantie. Elle est organisée, elle est structurée de manière trimestrielle, de manière mensuelle. Mais s'il y a des rachats supérieurs à ces 5%, finalement, c'est bloqué pour protéger les intérêts de tout le monde. Donc, le premier réflexe à avoir, à mon avis, c'est de choisir des gérants qui n'ont pas été bloqués. Première chose, il ne faut pas jeter la classe d'actifs de la dette privée à la poubelle. Là, c'est quand même fondamental parce que c'est une classe d'actifs qui a toute sa place dans les allocations patrimoniales. Et puis, il faut choisir des gérants qui ont fait un vrai travail de due deal, d'analyse de leur participation Et c'est des actifs, des fonds qui tournent à 8-9% de rendement, qui versent des revenus réguliers et donc qui assurent eux-mêmes en fait une sorte de liquidité à l'intérieur de ces fonds Evergreen.
Voilà, ne jetons pas toute la classe d'actifs, les fonds de dette privée Evergreen, panique peut-être un peu injustifiée à ce stade, nous dit Stéphane aujourd'hui. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Stéphane. Merci Stéphane beaucoup. Rudzinski, président cofondateur Rétores Finance avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Merci beaucoup, à très Merci vite beaucoup. Stéphane. 11h56, c'est terminé pour aujourd'hui, pour Tout pour investir. Dans un instant, Marie-Cœur de Roy pour l'IMO jusqu'à midi et demi. Puis on se retrouve bien sûr demain à 11h pour Nouvelles Aventures. Bonne journée, à demain.